Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, opération Vieille Pierre. Emmanuel Macron lance aujourd'hui la promotion de son loto du patrimoine. Plus de 250 sites à rénover. On poussera la porte de l'un de ces monuments en danger. Encore des ennuis judiciaires pour Lafarge. Le géant du ciment sera bientôt mis en examen pour financement du terrorisme. Information France Inter, c'est toujours l'affaire des pots de vin qu'il aurait versé à des groupes terroristes en Syrie. Pas touche à l'âge légal de départ à la retraite. Il restera bien à 62 ans dans la future réforme. Les premières pistes sont dévoilées aujourd'hui. Certains régimes spéciaux devraient survivre. Quant à la retraite par capitalisation, elle pourrait être mise en place en France, mais uniquement pour les plus riches. Détails dans ce journal et réaction dans 20 minutes, Nicolas, avec votre invité.
Il s'agit du député des Hauts-de-Seine, porte-parole de La République En Marche, Gabriel Attal. 01 45 24 7000 pour dialoguer avec lui tout à l'heure.
Dans ce journal également, un site internet pour signaler les contenus théoriquement interdits aux enfants. La deuxième ville d'Allemagne, Hambourg, qui depuis ce matin banni les voitures diesel de tout son centre-ville. Et puis les chasseurs d'orage qui ne savent plus où donner de la tête. C'est le coup de foudre permanent depuis le début du mois. C'est le gros morceau de l'année prochaine. La réforme des retraites version Macron commence tout doucement à se dessiner. Depuis un mois et demi, le chef de chantier nommé par le gouvernement, Jean-Paul Delevoye, consulte les syndicats. Il pose ses premières pierres ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Michaël Thébault.
Bonjour.
La première concerne l'âge légal de départ à la retraite qui devrait bien rester comme aujourd'hui à 62 ans.
Et tout simplement parce que dans ce Big Bang où chaque citoyen aura son propre compte individuel de droit à la retraite, eh bien, il faut une référence commune, un seul. Ne pas faire comme en Suède, par exemple, explique Jean-Paul Delevoye, où faute de référence d'âge légal, des milliers de salariés se sont retrouvés avec de toutes petites retraites. Mais seuil ne veut pas dire, bien sûr, obligation. Et dans ce futur système de retraite à points, c'est donc le salarié in fine qui décidera. J'ai assez de points, ma retraite me paraît suffisante, je pars. Ou au contraire, je n'ai pas assez de points, je reste.
Alors la réforme se fera à enveloppe constante, promet Jean-Paul Delevoye. Quant aux 42 régimes spéciaux, ils ne seront pas tous abolis.
Non, même si de nombreux régimes spéciaux ont déjà été réformés, mais pour certains c'est vrai, il faudra maintenir des spécificités. C'est justifié, dit Jean-Paul Delevoye, citant le cas des militaires ou des indépendants, cas particulier également, mais là c'est beaucoup plus flou, pour tous ces nouveaux métiers d'ubérisation, faible rémunération, précarité, comment leur accorder suffisamment de points? Rien n'est tranché. Tranché en revanche, ou presque, le cas des très hauts revenus, au-dessus de 120 000 ou 160 000 euros annuels, le système pourrait bien être une retraite par capitalisation. 200 à 300 000 Français seraient concernés.
Michaël Thébault, merci. La réforme doit être présentée l'an prochain pour une application à partir de 2025. En attendant, ce sont les Français qui sont consultés à partir d'aujourd'hui via un site internet et des ateliers dans toute la France.
C'est une nouvelle étape dans l'affaire Lafarge et c'est aussi une première judiciaire.
L'entreprise sera mise en examen la semaine prochaine pour financement du terrorisme. Information France Inter, plusieurs cadres du cimentier sont passés aux aveux. Ils affirment que le groupe a versé l'équivalent de 13 millions d'euros de pots de vin à des groupes terroristes en Syrie pour continuer à faire tourner son usine sur place. Sarah Guibaudot.
Mardi prochain, un représentant de la Farge-SA et l'avocat du groupe sont donc convoqués au pôle financier. 8 cadres ou anciens dirigeants sont déjà mis en examen pour avoir financé des groupes terroristes et ou pour avoir mis en danger leurs salariés syriens. L'association Sherpa, qui avait porté plainte, demande au juge d'instruction d'aller encore plus loin avec la personne morale. Pour Marie-Laure Guilin, responsable du contentieux, Lafarge devrait être poursuivie pour complicité de crimes contre l'humanité.
Cette plainte a fait énormément de bruit parce qu'on parle de financement de terrorisme et que les Français, les Européens se sentent touchés. Ce qui est crucial pour nous aujourd'hui, c'est qu'on parle des gens dont on ne parle jamais. Toutes ces familles tuées, kidnappées, torturées dans des conflits armés, qui n'ont pas accès à la justice dans le pays où opèrent pourtant des multinationales françaises qui parfois alimentent à hauteur de millions d'euros ces conflits armés, et donc qui sont responsables indirectement de ces crimes de guerre, de ces crimes contre l'humanité.
L'issue de ce rendez-vous judiciaire sera suivie avec attention par d'autres entreprises qui opèrent dans des zones de conflit. Lafarge, devenue Lafarge Holcim, a d'autres soucis en ce moment. La fusion avec les Suisses va entraîner près de 200 suppressions d'emplois et la fermeture du siège parisien.
Alors le ciment français a-t-il financé des groupes armés parmi lesquels Daesh? C'est la justice qu'il dira dans les mois qui viennent. Cette nuit, le groupe État islamique a revendiqué expliqué l'attaque qui a fait 3 morts avant-hier à Liège, en Belgique. Une chance au grattage, une chance au tirage. Emmanuel Macron lance son loto du patrimoine aujourd'hui avec un double rendez-vous. Ce matin dans l'Ain, où il va visiter le château où Voltaire a vécu pendant 20 ans à Ferney. Château qui vient d'être entièrement rénové et qui rouvre demain au public. Cet après-midi, retour à l'Élysée pour une réception où seront présentés les 269 projets retenus. Ceux qui profiteront de l'argent récolté pour être rénové. Parmi eux, il y a l'église Saint-Lambert de Montigny-sur-Meuse, fermée depuis 2013 car l'édifice prend l'eau. Alexandre Blanc a eu le droit à une visite privée façon état des lieux.
Quand la maire du village, Brigitte Ancio, ouvre la porte, il y a du courrier.
Le mot était glissé sous la porte. Ce sont des personnes qui viennent de Hattingen en Allemagne.
Des touristes qui demandent à visiter l'église car elle est fermée depuis 5 ans.
Parce qu'il y a des morceaux de plafond qui commençaient à tomber un petit peu dû à des fuites sur le toit. Bon, le toit a été mis en sécurité et il faudrait des études supplémentaires de sol parce qu'a priori, la nef pencherait vers l'avant.
Les études chiffrent le montant des travaux à 3 millions d'euros. Trop cher pour la petite commune de 78 habitants et ses 400 000 euros de budget. Alors l'église et ses fastueux décors rococo en stuc coloré restent en l'état depuis 1993.
Depuis qu'elle était classée, cette église, il n'y a jamais eu de gros travaux de restauration, si ce n'est changer des carreaux, mais vous voyez, ça ne sert pas à grand-chose. Les fuites, et voilà, c'est tout.
Alors ce loto du patrimoine est une véritable aubaine.
Des personnes ont mis la candidature, des administrés ou des personnes qui font partie de la sauvegarde du patrimoine ou la DRAC, tout simplement. En fait, j'en sais rien. Donc moi, je l'ai appris par un journaliste, en fait.
Montigny-sur-Meuse ne pourra prétendre qu'à quelques milliers d'euros au mieux. C'est bien loin du compte, mais c'est déjà ça pour Madame le maire.
Déjà, on va parler de Montigny, c'est très bien. Après, moi, je ne peux pas faire des miracles non plus, hein, même si on est dans une église. Hein.
Pour réussir à faire les travaux, la commune compte sur un mécène privé ou n'exclut pas de revendre l'église à un particulier.
Le loto du patrimoine, ce sera en septembre prochain. Parallèlement, 12 millions de cartes à gratter seront mises en vente à 15 euros, toujours pour récolter des fonds. On apprend ce matin que ces cartes à la gloire des monuments français ont été imprimées près de Détroit, aux États-Unis.
Il est 8h07, des massages, des rencontres et plus si affinités.
Le deuxième site français de petites annonces, Viva Street, est sous le coup d'une information judiciaire ouverte pour proxénétisme aggravé. Soupçonné d'héberger des centaines de petites annonces de femmes y proposant leurs services, ce sont les parents d'une adolescente qui les premiers avaient déposé plainte âgée de 14 ans. Elle se présentait sur le site comme masseuse de 19 ans. Et justement, si vos enfants passent du temps sur Internet, il leur est sans doute arrivé un jour de tomber sur un contenu qu'ils n'auraient pas dû voir, contenu pornographique ou violent sous forme de publicité intrusive. Et bien depuis hier, une association propose désormais de recenser ces contenus sur une plateforme baptisée balancetonsite.fr. Thibault Lefèvre.
Près d'un enfant sur 4 a déjà été surpris par du porno sur Internet, comme Théo et sa petite sœur Sarah, 12 et 10 ans. Ils regardent des dessins animés sur le site streamcomplet.me sous l'œil déconcerté de leur maman Sabrina.
C'est un site où on peut voir des films gratuitement, où il y a énormément de pubs de gros nénés et des grosses fesses et qui apparaissent tout le temps. Donc là, ils se cachent les yeux et puis on attend que la pub passe. Je sens pas que je puisse faire grand-chose à part leur dire de faire attention quand même. Et oui, je suis un peu désemparée parce que c'est très répétitif, c'est souvent et on s'y habitue et c'est dommage parce qu'il ne faut pas s'y habituer justement. Il faut continuer de stopper ça et c'est pas évident.
Et pour endiguer le phénomène, l'association Innocence a donc ouvert le portail balancetonsite.com.
Je clique sur signaler un contenu inapproprié, je copie l'URL de la publicité, donc dans la barre d'adresse, et j'envoie.
Gordon Choisel est à l'origine du projet. Dans son viseur, les sites de streaming illégal, mais surtout les pouvoirs publics accusés de ne rien faire.
On ne peut pas demander un respect du civisme dans le monde réel si ce respect du civisme n'existe pas dans le monde virtuel. On répond à un manque d'intervention de l'État dans ce domaine.
Et pour lutter efficacement contre les contenus pornographiques, l'association Innocence demande la création d'un parquet national numérique.
Le reportage Thibault Lefèvre, des insultes, des menaces et parfois des coups qui pleuvent. Plus de 20 000 incidents ont été signalés l'an dernier à l'hôpital. Dernier chiffre du ministère de la Santé, la psychiatrie, les urgences et la gériatrie sont les services les plus concernés. 80 pages pour aider les enseignants. Le nouveau guide de la laïcité est distribué dans tous les établissements. L'établissement scolaire, il rappelle les règles à respecter sur le port du voile ou sur le menu de la cantine. Il donne aussi les exemples les plus concrets possibles pour aider les enseignants. Solène Lehen.
Là où le livret laïcité publié sous Najat Vallaud-Belkacem insistait principalement sur l'importance du dialogue pour prévenir et régler des conflits, le vade-mecum de la laïcité rédigé par un conseil des sages insiste lui aussi sur le dialogue mais également sur les sanctions. Pas question par exemple de voir des élèves afficher ostensiblement des signes religieux. Le vade-mecum rappelle qu'en dernier recours, l'établissement peut exclure l'élève récalcitrant. L'idée c'est de ne rien laisser passer. Les élèves qui s'opposent à un enseignement, la demande de repas différenciés à la cantine, les certificats médicaux de complaisance pour échapper à l'EPS au cours de sport, tout est détaillé. Principe de laïcité rappelé pour les élèves, les enseignants, mais aussi tous les personnels des écoles, collèges et lycées. En revanche, sur l'épineuse question des sorties scolaires accompagnées par des mamans voilées, souvent les seules disponibles et volontaires, si le ministre s'est montré par le passé opposé à leur présence, le texte choisit finalement d'autoriser ces mères d'élèves à continuer d'accompagner les classes, à condition bien sûr qu'elles ne fassent ni propagande ni prosélytisme.
Il est 8h11 à l'étranger, la mise en scène était parfaite.
Un dissident russe donné pour mort puis ressuscité 24 heures plus tard. L'Ukraine vient donc d'inventer le premier fake assassinat monté de toutes pièces. Avant-hier, police et autorités ukrainiennes avaient annoncé la mort du journaliste et dissident russe Arkady Babchenko, tué officiellement de 3 balles dans le dos en bas de chez lui. Mais son meurtre n'était qu'une incroyable mise en scène. Il a fait son retour hier, expliquant que son faux assassinat était destiné à en éviter un vrai, mais cette fois commandité par les services secrets de la Russie. À Moscou, Claude Brouillot.
D'abord soldat, ensuite journaliste et désormais acteur consentant de sa mort simulée. Arkady Babchenko, le ressuscité, n'a pas déclenché pour l'instant la tempête diplomatique ni le flot de communiqués attendu généralement en pareille circonstance de la part des autorités russes. Tout au plus, le ministère des Affaires étrangères à Moscou s'est fendu d'une double accusation de propagande et de provocation anti-russe de la part du voisin ukrainien. Un peu comme si, à l'approche de sa Coupe du Monde de football, le pouvoir russe avait souhaité lisser les contours de sa force. Partagé en revanche entre le soulagement de savoir Arkady Babchenko en vie et le questionnement sur le bien fondé d'un tel simulacre, certains des collègues russes de l'intéressé, travaillant dans des médias indépendants, ont avoué leur malaise. Pendant ce temps, officiellement, les services de sécurité ukrainiens ont annoncé l'arrestation d'un homme soupçonné de préparer l'assassinat de Babchenko. Le président Porochenko, lui, a ordonné que le journaliste et sa famille bénéficient désormais de garde du corps. Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
Toujours à l'étranger, compte à rebours en Espagne, où l'inoxydable Premier ministre Mariano Rajoy, au pouvoir depuis 7 ans, affronte une motion de censure déposée par l'opposition. Il pourrait y laisser son poste. Le vote est prévu demain. Et puis voici peut-être un avant-goût de ce qui attend les automobilistes français dans quelques années. Depuis ce matin, une petite partie du centre-ville de Hambourg, en Allemagne, est interdite aux voitures diesel. Prière d'aller polluer ailleurs, c'est une première brèche au pays de l'automobile, Sandy Dauphin.
Les voitures diesel commercialisées avant 2015, avant la norme Euro 6, sont interdites sur 2,5 km. Un petit périmètre, mais c'est déjà une révolution, explique Yann Doubeux, porte-parole environnement et énergie du Land de Hambourg.
Bien sûr qu'il y a de la critique. Ces mesures sont modérées seulement sur des petits tronçons sur le réseau de route à Hambourg. On se trouve au milieu des positions des critiquants et des gens qui disent que ça ne suffisait pas.
Objectif, baisser les taux de dioxyde d'azote qui dépassent les normes européennes. Le Land de Hambourg aurait préféré d'autres solutions pour réduire la pollution des pots d'échappement. Il se dit victime du Dieselgate, l'affaire des moteurs truqués et de l'inaction de Berlin.
Le gouvernement fédéral n'a pas tiré la leçon du Dieselgate. S'il n'y avait pas eu les tricheries sur les gestions des moteurs diesel, ça ne serait pas nécessaire de mettre en place des restrictions.
Après Hambourg, la justice pourra contraindre d'autres villes allemandes à limiter la circulation des diesels. Fin février, la Cour administrative fédérale a en effet donné raison à une association écologique contre les villes de Stuttgart et de Düsseldorf.
Le tennis à Roland-Garros, 3 Français déjà qualifiés pour le 3e tour. Gilles Simon, Gaël Monfils et Pauline Parmentier. Pauline Parmentier qui a battu sa compatriote Alizée Cornet hier. Une finale entre habitués la nuit prochaine aux États-Unis, celle du championnat NBA de basket. Les Golden State Warriors d'un côté, les Cavaliers de Cleveland de l'autre. Cela fait 4 ans de suite que l'affiche est la même. Réglez vos réveils, le coup d'envoi du premier match, c'est à 3h du matin. L'avantage pour vous, Nicolas, c'est qu'à cette heure-ci, vous êtes déjà réveillé.
Nous sommes fin fermé, Marc, mais le ciel, lui, se croit en août.
Plus de 150 000 impacts de foudre depuis le début du mois. L'ambiance est électrique en ce moment au-dessus de nos têtes. Il faut remonter près de 20 ans en arrière pour trouver un mois de mai aussi orageux. À la plus grande joie, bien sûr, de ceux qui les traquent, les chasseurs d'orages. C'est un peu leur coupe du monde de foot en ce moment. Appareil photo en bandoulière, ils sont prêts à tout pour immortaliser les coups de foudre. Jean-François Fernandez a suivi l'un de ses passionnés à Vesoul à la recherche de la photo parfaite.
Le rendez-vous est donné sur l'aérodrome de Frotté, sur les hauteurs. Jean-Charles Ouvrard consulte une application sur son smartphone. On y voit l'orage sur Besançon qui se dirige sur nous. Jean-Charles installe son appareil, pointé vers le Lomont. Au-dessus de l'appareil, un petit boîtier magique.
Voilà, en fait, c'est une cellule détecteur déclencheur qui est reliée directement sur l'appareil photo. Et dès qu'il y a une variation de lumière, donc un éclair par exemple, ça prend automatiquement la photo.
Et là, il faut être patient, car toutes les photos prises ne donnent pas forcément la photo.
Hier soir, j'en ai fait 350. 350 et j'en ai gardé 3. Et pour l'instant, je ne les ai pas encore traités.
En fonction des orages, il faut parfois remonter dans la voiture, aller chercher un autre endroit. L'idéal, c'est lorsque l'orage vient de la Haute-Marne et que les éclairs se retrouvent derrière la chapelle de la Motte. Mais là encore, il faut être très patient.
Reportage Jean-François Fernandez, France Bleu Besançon. Aujourd'hui, sale temps pour les chasseurs d'orages. Météo France a levé toutes les alertes. Qu'est-ce qui se passe?
Merci Marc Fauvel.